Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 13h, le journal François-Xavier de Calonne. Les Tunisiens de l'étranger appelés à se prononcer dès demain sur le projet de nouvelle constitution, un référendum lundi prochain en Tunisie. Gros plan sur le prochain sommet de la francophonie en Tunisie en novembre prochain, ce sera à Djerba. Nous y reviendrons avec Rayed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Le président égyptien est à Paris, Abdel Fattah al-Sissi est reçu par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à l'Élysée. L'aggravation de la crise alimentaire au Soudan, la Banque mondiale a annoncé débloquer 100 millions de dollars pour des transferts d'argent et de nourriture. J-1 avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022. Les footballeuses marocaines joueront face à l'Afrique du Sud. Demain, notre invité sera Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M.ma. Les Tunisiens sont donc invités à se prononcer sur une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du chef de l'État tunisien. Le projet de la loi fondamentale est composé de 10 chapitres et compte 142 articles. Le scrutin débutera demain pour les Tunisiens à l'étranger. Il aura lieu lundi en Tunisie. Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections fait état de 9 272 000 électeurs inscrits au registre électoral. De nombreuses personnalités de la société civile craignent une concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'État Kais Saied. Coup de projecteur sur le prochain sommet de la francophonie en Tunisie, ce sera en novembre prochain à Djerba. Entretien avec Rayed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Il appelle tout d'abord à la mobilisation à l'occasion du référendum sur la constitution en Tunisie.
Oui, bien sûr, parce que c'est un formidable exercice démocratique et comme à chaque fois lorsque nous devons nous prononcer, je ne peux que inviter nos concitoyennes et nos concitoyens tunisiens en France pour le coup à se mobiliser et à s'exprimer, dans leur pleine liberté à l'occasion de ce référendum. C'est un bel exercice démocratique et je pense qu'il est tout à fait nécessaire de se mobiliser et de s'exprimer en toute liberté.
Vous présidez l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Un événement marquant va se produire à l'automne prochain en Tunisie, ce sommet de la francophonie à Djerba. C'est un élément particulièrement important, et notamment pour vous en tant que responsable associatif.
C'est un formidable événement pour la Tunisie, puisque la Tunisie est un des membres fondateurs de la francophonie, et puis accueillir... Ce sommet en Tunisie, à Djerba qui plus est, et dans ce joyau bleu qu'est la Tunisie, accueillir l'ensemble des acteurs de la société civile, accueillir les acteurs économiques pour, définir ensemble un nouveau cadre de coopération dans l'espace francophone, c'est évidemment, en plus dans ces temps de crise économique et sociale, c'est bien évidemment important pour la Tunisie et pour l'ensemble de l'espace francophone, et je suis très fier que la Tunisie puisse être le porte-étendard de ce sommet et qu'elle soit également un des leaders, elle a toujours été en réalité, mais qu'elle confirme sa place de leader de l'espace francophone. Elle a marqué l'histoire et elle continue de marquer l'histoire de la francophonie, et j'espère qu'à Djerba, on confirmera la place importante qu'occupe la Tunisie dans l'espace francophone, dans la francophonie, et dans le cœur de chacune et de chacun qui, comme moi, aime la francophonie et considère que c'est un outil formidable de développement et d'épanouissement.
Et quel regard portez-vous sur l'évolution de l'influence de la francophonie ?
Vous savez, je pense que ce sera un mensonge de dire que la langue française, se développe dans le monde. Ce sera un mensonge que de dire cela. Bien au contraire, on voit que les langues anglo-saxonnes prennent le pas. Et donc, il y a une très grande nécessité à réaffirmer que la langue française, c'est pas simplement, un idéal ou c'est pas simplement un outil linguistique, mais c'est aussi, la francophonie, c'est également, un levier de développement, et la langue française doit être également être un levier de développement pour l'éducation, pour la culture, pour l'économie sociale et solidaire, pour le numérique. Il faut réaffirmer la place de la langue française, pas simplement comme un outil linguistique, mais comme un levier de développement. Et donc, il est important qu'on puisse se mobiliser pour d'abord faire connaître la francophonie, parce que c'est aussi ça qui est important. Si aujourd'hui, la langue française baisse, en tout cas dans le monde, c'est parce que on doit, je pense, faire davantage pour faire connaître la francophonie. Je pense que c'est important de lui donner une plus grande visibilité et de montrer que finalement, c'est, je dirais, un outil linguistique qui sert aussi d'outil de développement. Mais ça, c'est à nous, acteurs de la société civile et acteurs institutionnels, de nous mobiliser pour mettre en lumière et en relief la langue française.
Et sur l'action de l'exécutif tunisien sur cette question, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre point de vue en ce jour important pour la Tunisie, les Tunisiens qui sont appelés à se prononcer ce lundi sur une nouvelle constitution?
Vous savez, la Tunisie a toujours, eu pour le sommet de la francophonie un intérêt particulier. Sinon, elle ne l'aurait pas accueilli sur ses terres, et je ne pense pas que l'OIF aura accepté que la Tunisie accueille ce sommet. La Tunisie accorde une très grande importance. Un boulot absolument énorme a été entrepris et a été fait par le comité national chargé de l'organisation du sommet. Tout a été mis en œuvre pour accueillir comme il se doit l'ensemble des personnes et des invités qui auront le plaisir et le bonheur d'assister à ce sommet. Il y a un très grand intérêt parce que, encore une fois, la Tunisie est un des leaders de l'espace francophone. C'est, un père fondateur, c'est un pays fondateur de la francophonie à travers le président Habib Bourguiba. Donc forcément, toutes les énergies ont été mises en commun pour faire de cet événement une réussite. Et donc, et d'ailleurs, j'ajoute que à l'occasion de ce sommet, ce sera la première fois que nous aurons un forum économique de la francophonie, ce qui est une première, et ça se déroulera en Tunisie. Ça démontre évidemment l'intérêt que porte la Tunisie pour cet événement, et surtout l'intérêt qu'elle porte à la nécessaire, concentration des énergies pour adopter et impulser une nouvelle dynamique économique qui soit profitable à la Tunisie et à l'ensemble des pays de l'espace francophone.
L'espace francophone, qui vous le soulignez, est aussi une puissance économique.
C'est une puissance économique, il y a 300 millions de locuteurs dans le monde. C'est une puissance économique parce que il y a différents acteurs qui agissent au quotidien. Je pense au groupement du patronat francophone, je pense au Forum francophone des affaires, je pense également à l'Alliance du patronat francophone qui y est née il n'y a pas si longtemps, en mars dernier à Tunis d'ailleurs. Et donc, il y a nécessité pour ces acteurs économiques de mettre en synergie leurs forces pour faire de l'économie un instrument de développement et surtout mettre l'économie au service de la solidarité. Et donc, cet événement à Djerba doit être l'occasion de réaffirmer la place, de l'économie comme instrument de solidarité au sein de l'espace francophone. Et donc, ce sera une formidable occasion pour, impulser et une nouvelle dynamique économique au service des populations.
Rayed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Le président égyptien est à Paris. Abdel Fattah al-Sissi est reçu par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à l'Élysée. La dernière visite du président égyptien à Paris remontait à novembre 2021 et était consacrée à la résolution du conflit libyen. Le chef de l'État égyptien était cette semaine à Berlin pour participer à une conférence internationale sur le climat. L'un des enjeux était l'organisation de la COP27 qui se tiendra en novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'aggravation de la crise alimentaire au Soudan. La Banque mondiale a annoncé débloquer 100 millions de dollars pour des transferts d'argent et de nourriture, des fonds alloués uniquement via le Programme alimentaire mondial. Le Soudan, où l'aide internationale reste suspendue en rétorsion au putsch des militaires en octobre dernier. De violents combats ont éclaté la nuit dernière entre des milices dans la capitale libyenne, des combats à Tripoli qui ont fait 3 morts parmi les civils ainsi que 2 blessés. La guerre en Syrie, 7 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans des bombardements russes dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Il s'agit du dernier grand bastion rebelle du pays. L'Union européenne annonce avoir sanctionné 6 Syriens, une société privée de sécurité, pour leur implication dans le recrutement de mercenaires dépêchés en Ukraine afin de combattre pour le compte de la Russie. Ces personnes et entités sanctionnées sont interdites de se rendre dans les pays de l'Union européenne. Les sanctions européennes prévoient aussi le gel de leurs avoirs. Le projet de loi pour le pouvoir d'achat a été adopté tôt ce matin par l'Assemblée nationale, adoption en première lecture. Il s'agit de répondre à la forte inflation qui touche la France. Les députés ont notamment voté en faveur de la revalorisation des retraites et des prestations sociales, mais aussi de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et du plafonnement de la hausse du montant des loyers à 3,5%. L'opposition de gauche demandait un gel des loyers. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022 qualifiée pour la finale après leur victoire sur le Nigeria, les footballeuses marocaines, les Lionnes de l'Atlas, se tournent désormais vers la rencontre contre l'Afrique du Sud. Ce sera demain. Entretien avec Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M.ma.
L'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que, bon, on disait que la demi-finale était déjà un exploit et qu'il faut juste mouiller le maillot contre le Nigeria. Là, on est en finale. Contre une sélection qui est aussi forte que le Nigeria, l'Afrique du Sud, je pense que l'avantage avec cette équipe marocaine féminine, c'est qu'il n'y a jamais de pression. C'est-à-dire que les attentes n'étaient pas aussi immenses, et c'est toujours le cas, attention. C'est-à-dire que déjà atteindre la finale était un exploit. Donc samedi, je pense que le stade sera plein à craquer, comme d'habitude. Je pense que les efforts vont se redoubler pour assurer une belle organisation, une belle clôture pour cette CAN. On a vu cette semaine les tweets et les réactions de la FIFA qui est épatée par la présence des supporters lors des matchs de l'équipe nationale. Donc, je pense pas qu'on pouvait avoir un meilleur scénario que celui-là, que de voir justement le Maroc présent en finale, et donc une finale qui se joue avec des guichets fermés, même si l'entrée est gratuite. Et donc, voilà, je dirais que ce sera un match très difficile, attention, pour les deux équipes, avec un avantage, il faut le dire, de l'Afrique du Sud, qui est favorite. De par son histoire, de par son travail sur le foot féminin qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais je pense que le 12e joueur qui est le public, je pense qu'il aura son mot. On l'a vu contre le Nigeria, la présence des supporters était décisive. Et je pense que ça sera aussi contre l'Afrique du Sud. Je reste optimiste. Les Lions peuvent justement remporter cette CAN et la garder à la maison.
Quels sont les principaux atouts des Lions de l'Atlas face à l'équipe sud-africaine?
Ouais, je dirais cette homogénéité et l'harmonie qui règne dans ce groupe, parce que il y a une sorte de stabilité sur la formation de départ depuis le début de cette CAN, ce qui est important. Je dirais aussi l'avantage d'avoir un groupe très très puissant d'un point de vue mental, et ça c'est indispensable pendant ce genre de tournoi qui se joue sur quelques jours. Le volet humain et le volet mental prime sur beaucoup de choses. Voilà. Après, c'est une équipe très technique, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de possibilités individuelles à travers notamment Reza Chepak, Fatima Tagnaus, Sana Msoudi et d'autres joueuses. Et face à une équipe de l'Afrique du Sud, puissante physiquement, rapide, est très tactique. Voilà. Donc, on aura droit à deux footballs différents, deux écoles différentes, avec deux histoires différentes. Je pense que celui qui saura justement gérer le côté mental, attention, je pense que c'est celui qui justement sera certainement gagnant après le CFI final de l'arbitre.
Le Maroc, qui, comme l'Europe occidentale, a été frappé par des températures extrêmes, cela a eu un impact durant cette Coupe d'Afrique des Nations féminines?
Non, 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 je pense pas. Je pense pas. Les feux de forêt cette fois-ci au Maroc, je pense que sur l'esprit des gens, ça a eu un impact, on va dire, limité parce que, mais il faut les saluer, les autorités locales avec notamment la protection civile, la gendarmerie royale, les forces armées royales et tous les intervenants qui étaient là matin et soir, 7 jours sur 7 depuis mercredi, ont pu limiter les dégâts et contrôler ce feu de forêt le plus rapide possible, partout, avec les moyens nécessaires. Je pense que vous avez suivi les images, voilà, les canadaires qui étaient sur place, et en plus des volontaires qui ont accompagné les autorités. Je pense que c'est toujours dramatique de voir des feux de forêt, de voir des hectares d'espaces verts perdus, mais ça fait aussi chaud au cœur quand on voit que les autorités, l'État est présent là pour boucler l'affaire et aussi accompagner les habitants touchés par ces incendies. De là, je pense que on a eu malheureusement un cas de décès à la Rèche, mais malgré l'ampleur des incendies, on n'a pas eu de pertes humaines, ce qui est très important, et c'est le plus important en fait.
Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M.ma, fin de cette édition, il est 13h17, vous êtes bien sur Radio Orient, à 14h30 votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h30 pour votre journal en langue française. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.